I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour, c'est Côme de l'équipe Audible, l'appli de livres audio et podcast. Bien que je ne sois pas encore parent, j'écoute avec grand plaisir les interviews de Daron menées par Fabrice. Elles me permettent d'approcher différents aspects de la paternité et d'avoir un premier aperçu des choses à faire, ou à éviter, pour le jour où je les vivrai. Et pour les darons, les tontons, et tous ceux qui ont un enfant dans leur entourage, Audible offre aux 100 premiers auditeurs le titre de méditation audio pour enfants, pieds sur terre et tête en l'air, avec toute offre d'essai. Rendez-vous sur la page audible.fr/cadeau et entrez le code promo DARON, D-A-R-O-N-S. Bonne écoute.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Et encore une fois, merci à Audible qui est sponsor de cet épisode. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose d'écouter l'histoire de Sébastien, dont le fils aîné a été frappé par la leucémie alors qu'il venait à peine d'entrer en maternelle. 2 ans et demi plus tard, Lucas a terminé son traitement et s'en est heureusement sorti. Sébastien vous raconte leur parcours en tant que parents face à la maladie de leur enfant et la reconstruction de toute la famille après cette épreuve. Vous entendrez à quel point le souvenir reste vivace chez lui. Un immense merci à Sébastien d'être venu témoigner à mon micro. Vous le savez, ce podcast est propulsé par Rocky, R-O-C-K-I-E, qui est le magazine pour accompagner les femmes, mais aussi les hommes qui le souhaitent, dans leur vie d'adulte. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur rockymag.com, R-O-C-K-I-E-M-A-G.com, pour ne manquer aucun nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans les notes de ce podcast. Si vous aimez le podcast Histoire de Daron, je vous invite à vous y abonner, à lui mettre une bonne note sur vos applis de podcast préférés. Ça peut être sur Apple Podcasts sur iPhone par exemple, ou sur Podcast Addict sur Android. Mais vous pourrez retrouver aussi Histoire de Daron sur Deezer, sur Spotify, sur SoundCloud, sur YouTube et même désormais sur Audible. Vous retrouverez tous les liens dans les notes de ce podcast. Un grand merci d'avance pour tous vos commentaires, vos bonnes notes, vos bonnes vibes et je vous laisse avec Sébastien.
On est avec Sébastien, salut Sébastien.
Salut Fabrice.
Ça va ?
Ça va plutôt pas mal.
Merci Sébastien de venir au micro, tu m'as envoyé un message sur Instagram.
C'est ça.
Pour me dire que t'aimerais bien venir me raconter ton histoire de daron.
Tout à fait.
Tu m'en as dit suffisamment, mais pas assez pour que j'en sache trop, justement. J'aime bien rester le plus neutre possible. Mais ce que tu m'as raconté m'a déjà piqué au vif et attiré l'attention. Déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Alors déjà, pour commencer, la magie d'Instagram, c'est que j'ai découvert ton compte complètement par hasard. Je suis tombé sur le profil l'histoire de Greg et ça a fait tout de suite écho à mon histoire. Et pour la petite anecdote, dans ma bande de potes, mon surnom c'est la Daronade. Et du coup, okay. La Daronade dans l'histoire de Daron, j'ai envie de dire la boucle, elle est bouclée.
Pourquoi tes potes, ils t'appellent la Daronade ?
Bon, parce que je suis le premier à m'être marié, le premier à avoir des enfants. Après, l'origine de Daron, Daronade, j'ai plus, mais voilà, tout le monde m'appelle Daronade.
D'accord.
Donc voilà, aujourd'hui, Daronade est dans l'histoire de Daron.
Cool alors. Enchanté Daronade, bienvenue dans l'histoire de Daron.
Merci. Donc je m'appelle Sébastien, j'ai 33 ans, je suis l'heureux papa de deux enfants, Lucas qui a 6 ans, mon petit guerrier, et Léa, ma petite princesse qui a 3 ans. Voilà, aujourd'hui ils vont bien et la vie est belle.
Quand tu dis mon petit guerrier ?
Oui, mon petit guerrier parce que Lucas, il sort d'une leucémie, qui est un cancer du sang. On lui a diagnostiqué, il avait 3 ans et demi, sa petite sœur venait de naître. J'ai voulu témoigner parce que j'ai été très touché par le témoignage de Greg. Et ma volonté, moi, de ma démarche, c'est de me dire, on a traversé des moments terrible avec mon épouse, avec mes enfants. On s'en est sorti quand on était en plein dans les traitements, j'aurais aimé tomber sur le témoignage de quelqu'un qui me disait « Vas-y, garde la patate, tu vas t'en sortir, t'en chies, mais c'est pas grave, demain il fera jour et bats-toi parce que ça le mérite. »
Est-ce qu'on peut revenir, avant de parler de cet épisode de ta vie qui a dû être compliqué, pour le moins, euphémisme, de ton envie d'enfant ?
Oui, très tôt, en fait, j'ai rencontré mon épouse jeune, on s'est mariés jeune, voilà, on a toujours voulu trois enfants. On a eu Lucas en 2012, et puis la petite Léa est arrivée en décembre 2015, et voilà, on est très, très heureux d'avoir été papa jeune. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui était important, mes parents m'ont eu un peu sur le tard. Donc j'ai grandi avec un papa qui avait pas la relation que j'ai moi aujourd'hui avec Lucas, d'une part avec la maladie, et puis parce que aussi je me considère comme un ado. Je joue encore à la Xbox, à la PS4, je raconte des conneries avec mes copains. Voilà, mon adolescence est pas si loin que ça, et le fait d'avoir été papa jeune, pour moi c'est quelque chose de top, parce que je me dis que je vais pouvoir voir grandir mes enfants, continuer à mûrir en tant qu'adulte avec mes enfants, et voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça.
Et donc tu partages, j'imagine, tes passions avec tes enfants, c'est ça ?
Oui. Oui, Lucas, je l'ai, alors au grand dam de mon épouse, Lucas joue déjà un petit peu à la Xbox. Alors, c'est du light, oui. mais c'est vrai que les gamins aujourd'hui ont une faculté, ils sont avec des tablettes dans les mains, quoi. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça, c'est des choses que nous, on n'avait pas avec la génération de nos parents. La génération de nos parents, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. La relation entre un père et son fils, il y a 15 ans, il y a 20 ans, comme toi, tu l'as peut-être connu, c'est plus la même qu'aujourd'hui. Voilà, moi, j'ai des amis qui ont des enfants qui sont ados, ils se parlent avec leurs enfants sur Instagram, sur Facebook. Forcément, ça change complètement la relation entre un parent et ses enfants.
D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Facebook est en train d'avoir beaucoup de mal. C'est qu'en fait, comme il y a tous les parents sur Facebook, les ados veulent plus être sur Facebook.
Carrément. Ouais, c'est has-been maintenant Facebook.
C'est ça. Faut être sur Snapchat, tu sais.
C'est ça.
Ok. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la maladie de ton fiston ? Comment ça s'est passé ? J'aimerais bien que tu plantes un petit peu le contexte, voilà.
Alors, on est en 2016, moi j'étais entre deux jobs, on venait de faire construire une maison, c'était la fin de la première section de mon fils, puis on le trouvait fatigué, et puis mon épouse l'avait amené plusieurs fois chez le médecin, puis les médecins avaient un peu la réponse facile, oui c'est un petit, c'est normal, il est fatigué. Voilà. Et puis donc, le 18 juin 2016, on emménage sur Chassieux, là où on habite aujourd'hui, et puis donc week-end du déménagement, on trouvait notre fils fatigué et le dimanche, on était en train de goûter et Lucas s'endort à table. Donc on se regarde et puis on se dit, tiens, c'est bizarre, mais et puis il se plaignait un peu de douleur aux jambes. Le médecin avait mis ça sur le coup de la croissance, c'est normal, il n'a pas envie de marcher, bon, bref. Et puis le lundi matin, mon épouse me dit, bon, bah, je vais l'amener chez le médecin, un nouveau médecin du coup qu'on ne connaissait pas, parce que c'est quand même bizarre qu'il soit fatigué. Et donc on était le 21 juin. Date très importante pour moi parce que je suis musicien. Et le 21 juin, fête de la musique, voilà, c'est. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lucas est né le même jour que mon papa. Et on a appris la maladie le 21 juin, qui est le jour de la fête de la musique. Je suis pas superstitieux, mais voilà, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui fait que. Mon épouse amène Lucas chez le médecin. Puis elle m'appelle en me disant, bah tiens, le médecin me dit, on va faire une prise de sang, c'est peut-être une mononucléose, c'est assez courant chez les gamins, c'est pas grave. Voilà, donc il fait sa première prise de sang. Il revient à la maison, et puis sur le coup des 16 heures, ma belle-sœur avait offert à Lucas une maison en plastique, là, les maisons, je ne sais plus comment ça s'appelle, qu'on met dans le jardin. Ouais. J'étais en train de monter la maison avec lui, et puis par la fenêtre, je vois mon épouse décrocher au téléphone, et d'un coup, changer de tête. Donc je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je ne pensais plus du tout à la prise de sang. Et là, elle raccroche, et elle fond en larmes. Et elle se met en mode pilote automatique. Elle pleurait, elle courait dans tous les sens. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Je lui demande ce qui se passe. Elle m'explique que je comprends dans ce qu'elle m'explique qu'elle a eu le médecin, qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'il fallait vite qu'elle aille la voir. Donc, elle part comme ça en vitesse. Et là, je pense que c'est les 30 minutes les plus longues de ma vie. Je me retrouve en tête à tête avec mon fiston. En me doutant bien qu'il se passait quelque chose, mon épouse est technicienne de laboratoire en anatomopathologie, donc les analyses médicales, elle connaît un petit peu. Donc je me dis que pour qu'elle réagisse comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de grave, mais en même temps, je ne sais pas ce qui se passe. Donc mon premier réflexe, c'est de prendre le téléphone et d'appeler le médecin pour lui dire, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous allez dire à mon épouse ? Puis après, le sentiment de me dire aussi, ben, elle va aller, on va lui annoncer quelque chose, je ne serai pas là. Voilà, c'était, ma fille était en train de dormir, donc je ne pouvais pas partir. Enfin, c'était un peu galère. Le médecin m'explique tant bien que mal qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal du tout sur ses analyses, que ça peut être grave, que ça peut être un cancer. Voilà. Au départ, j'en ai un peu voulu au médecin parce que je me suis dit, elle m'annonce ça comme ça. Et puis en même temps, je pense qu'elle a été prise au dépourvu parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que je l'appelle. Et puis c'était par téléphone, elle ne me connaissait pas non plus parce qu'on était nouveau arrivant sur la commune. Mon épouse revient vers une demi-heure plus tard en me disant, bah voilà, il faut qu'on aille au centre Léon-Bérard. Donc pour les personnes qui ne sont pas de Lyon, le centre Léon-Bérard, c'est le centre de lutte anticancérologie sur la région Rhône-Alpes. Donc tout de suite, je me dis, bon, il se passe quelque chose quand même. Après, le cerveau est quand même bien fait. Là, tout de suite, on se met en pilote automatique. On fait la valise, on appelle mes parents pour garder notre fille, et puis on monte dans la voiture, et puis on fonce à Léon-Bérard. On a la chance d'habiter à un quart d'heure, donc voilà. Et puis en arrivant à Léon-Bérard, alors dans un premier temps, ils nous ont laissé sous-entendre que ça pouvait être une mononucléose et que la mononucléose perturbait complètement les analyses. Avec du recul, je pense qu'ils savaient depuis le début le diagnostic et que c'était un moyen de nous faire atterrir en douceur, de ne pas nous dire tout de suite, bim, voilà. Donc pendant 24 heures, on est resté entre guillemets dans est-ce que c'est une mononucléose, est-ce que ça l'est pas. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que dans les traitements de chimiothérapie, chez les petits, ils leur posent des voies centrales, c'est-à-dire que c'est un tuyau qui est relié directement dans une artère pour les prélèvements sanguins et puis tout ce qui est chimiothérapie. Ça se pose au bloc opératoire, surtout sur un petit de 3 ans et demi.
Ouais.
Et là, le lendemain matin, en fait, donc le lendemain, ils devaient passer un examen qui s'appelle un myélogramme, c'est-à-dire que ils vont chercher de la moelle osseuse et ils regardent ce qui se passe dans la moelle osseuse. C'est un examen qui se fait pas de manière anodine. Il était question au départ qu'on attende les résultats parce que c'est ce qui aurait permis d'éliminer le fait que ce soit une mononucléose ou pas. Ça, ils devaient le faire dans l'après-midi et le matin, ils sont venus nous annoncer qu'une ambulance venait chercher Lucas, qu'on l'emmenait au bloc, qu'on lui posait la voie centrale. Donc avec mon épouse, on s'est dit, ok, il déclenche la voie centrale, c'est que c'est pas une mononucléose, même si on n'a pas fait l'examen et que voilà, c'est parti.
Vous étiez au courant de tout ça ou alors vous êtes au courant de tout ça parce que je veux dire, je me mets à la place des parents qui savent pas. Est-ce que les toubibs ont été très
ils ont,
dans
je
le
pense,
dialogue avec vous?
Je pense que oui, ils ont été dans le dialogue et je pense qu'ils ont surtout voulu nous protéger. On va dire qu'on est arrivé le 21. Le 21 au soir, ils continuaient à nous parler de la mononucléose. Alors peut-être qu'entre-temps, les examens médicaux ont été relus par un spécialiste et qu'ils se sont aperçus de choses qu'ils n'avaient pas au début, qui leur ont fait dire, ok, c'est pas une mononucléose. Et le lendemain matin, voilà, ils nous ont dit, on a pris la décision de poser la voie centrale parce que, et de pas attendre le résultat de l'examen qu'on devait faire l'après-midi, parce que je pense qu'ils avaient, voilà, ils avaient plus de doutes. Okay. Alors ils nous ont maintenu encore un peu dans l'incertitude, mais à partir du moment où ils nous ont dit, l'ambulance arrive, on va au bloc, on s'est dit, ok, c'est pas une mononucléose et il va falloir faire avec.
Ok. Bon, tu m'as raconté, c'est quoi la suite alors ? Comment ça se passe ?
La suite, donc il passe au bloc opératoire, l'opération se passe bien. On fait l'examen l'après-midi, qui est un examen qui est terrible, mais qui doit être fait pour voir ce qui se passe dans la moelle. Et puis le lendemain, ils viennent nous voir en nous disant on va prendre un quart d'heure, 20 minutes pour parler. Donc en général, quand un médecin vient et vous dit ça, voilà, vous vous attendez un peu au pire. Moi, la première question que j'ai posée au médecin, c'était un peu instinctif, mais la première question que je lui ai posée quand on est arrivé, c'est ok, on est dans un centre de cancérologie, ok, j'ai compris que c'était pas une angine, est-ce qu'il va s'en sortir ? C'était vraiment la question qu'il fallait que je pose. Tout de suite, ils nous ont dit on peut pas vous répondre médicalement, il y a des traitements, et puis voilà, atterrissez, et puis on avancera par étapes. Donc le surlendemain, on voit l'équipe médicale, et puis voilà, ils nous annoncent que Lucas était atteint d'une leucémie. Après, dans les bonnes nouvelles, c'est que c'était une forme de leucémie la plus connue, et qui se soigne le mieux. Voilà, en sachant qu'ils ont des classes de risque et que Lucas était dans la classe de risque la moins risquée, c'est-à-dire sur lequel les traitements marchent le mieux, sur lequel ils ont des rémissions assez rapides et puis surtout des rémissions définitives, parce que il peut y avoir un risque de rechute. Donc voilà, il était dans la classe la moins risquée.
Comment ça se passe pour toi, pour vous, quand vous apprenez que votre petit, c'est, petit garçon, là...
C'est...
Je m'étais dit de pas...
C'est terrible parce qu'en fait, vous avez le monde qui s'écroule. De se dire, pourquoi moi? Pourquoi lui? Je repense à Greg qui disait qu'il avait envie de tout casser. C'est une épreuve qui est terrible parce qu'on se sent démuni. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors après, l'avantage aussi quand même aujourd'hui, c'est que les équipes médicales sont assez bien rodées. Et tout de suite, ils nous ont dit, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous allez en chier pendant tant de temps. Il va se passer ça, là. Mais après, voilà, passer les 2 ans, parce que les traitements durent 2 ans, il va s'en sortir, et puis vous allez aller de l'avant, et puis vous allez tout reconstruire. Donc c'est un sentiment à la fois de... Mon épouse était complètement abattue, parce qu'elle, en plus, c'était la double peine, puisque c'était son quotidien professionnel, donc elle avait un peu la double lecture. Pour moi, c'était, en tant que papa, c'était aussi évidemment très dur. Puis surtout que dans notre famille, on n'a jamais été confronté à la maladie, c'était quelque chose qu'on... Voilà, on a eu la chance de passer à travers ça. Donc voilà, le monde s'effondre, mais rapidement, on va de l'avant parce que ben voilà, pour un petit garçon de 3 ans et demi, tout repose sur les parents. Et si les parents tiennent la route, et ben le petit tient la route. Si les parents flanchent, enfin, de toute façon, on n'a pas le droit de flancher en tant que parent, quoi.
Tu te sentais vachement ému, là ouais. T'as pris 2 secondes
Ouais, parce que c'est toujours... voilà, on est en phase de reconstruction. Tout ce qui est témoignage participe aussi à cette reconstruction. Et vraiment, ce que je disais tout à l'heure, moi, la volonté, c'est que j'espère qu'un papa qui traverse ça entendra ce témoignage et pourra se dire, ok, lui, il en a chié, mais il s'en est sorti. Aujourd'hui, ça va super bien, même si je suis encore ému un peu quand j'en parle. Ouais. Allez, je m'accroche et puis on fonce, quoi.
Qu'est-ce qui fait que tu es encore ému aujourd'hui alors que ton fils s'en est sorti? Je cherche à comprendre.
En fait,
Désolé si ma question est maladroite. Hein, parce
non,
que
non,
j'imagine
non,
à quel point
elle
c'est
est,
une
elle
énorme
est
tarte dans la gueule en fait. Et que...
C'est comme un deuil. Ouais. Il faut, tu vois, aujourd'hui, je suis incapable de voir une photo de mon fils avant la maladie sans craquer. Parce que c'était une période de notre vie où il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas tout ce qui s'est passé. Même si au final, et j'expliquerai pourquoi, je retire que du positif de cette expérience, ça reste quelque chose pour lequel il faut du temps pour le digérer. Et puis, les traitements, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la leucémie, c'est 6 mois de traitement, 6 mois de traitement lourd et 18 mois de traitement d'entretien. Mais la rémission définitive est définitive qu'au bout de 5 ans ou 3 ans après l'annonce du diagnostic, ce qui nous porte, nous, du coup, jusqu'en juin 2021. Et que dans cette période, y a des hauts et des bas. Tu vois, là, lundi, je suis allé chercher des examens de Lucas. Il y avait des éléments qui étaient en baisse. Tout de suite, je me suis dit, ça y est, c'est une rechute. J'ai appelé le médecin pour savoir ce qui se passait. Comme mon épouse était à la maison, qu'elle garde des petits, j'ai pas voulu lui passer les résultats sans m'assurer que tout allait bien. Donc voilà, c'est monté un peu. Je suis monté un peu tout seul en pression. Puis finalement, le médecin m'a dit, mais non, mais vous inquiétez pas, tout va bien, RS. Et puis quand j'en ai parlé avec mon épouse le soir, elle a rigolé, elle m'a dit, tu m'aurais envoyé les résultats, je t'aurais dit tout de suite que tout allait bien. Mais moi, je garde ce traumatisme de se dire, elle est allée chez le médecin, on lui a annoncé le cancer, j'étais pas là. Et voilà, je me voyais pas lui balancer les résultats comme ça, au risque qu'il apprenne qu'il y a un souci. Donc voilà, ça fait partie d'une étape de reconstruction et c'est quelque chose qu'il faut du temps.
En fait, quand tu dis que tu voulais la... Comment formuler ma question ? Ouais, c'est ça, tu voulais la protéger en fait, ouais. Quelque part de te...
Là, l'idée c'est ça, parce qu'en fait, ce qui se passe dans notre quotidien aujourd'hui, c'est que Lucas va bien, il est guéri, il est en rémission complète, tout va bien, il n'a plus de traitement depuis l'année dernière, mais on a un peu cette putain d'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui nous dit un jour il peut y avoir une rémission. Alors les médecins nous disent il est dans la classe de risque la moins risquée, c'est très peu probable, mais en même temps on ne pourra pas vous signer une attestation comme quoi il n'y aura pas de rechute, même après 5 ans, parce que voilà. Donc on est toujours et puis on est sorti des traitements en juillet de l'année dernière, donc c'est encore récent, et du coup voilà, dès qu'il a mal quelque part, on se dit ça y est, on voit tout de suite, parce que on se dit en fait il y a deux possibilités: soit on baisse complètement la garde, on se dit c'est bon, il n'y aura pas de rechute, et si ça arrive, là vous prenez une deuxième claque, et là le deuxième effet qui se coule, je pense qu'il est plus fort que le premier. soit vous gardez toujours un peu votre garde, mais le problème, c'est que du coup, voilà, vous pouvez pas vivre tous les jours en pensant à la rechute, parce que sinon, vous vivez plus, quoi. Lucas, il grandit, il a le droit de sortir de ce contexte-là, ma fille aussi, notre famille aussi, nos proches aussi. Donc voilà, c'est un peu un jeu d'équilibre. Il y a des jours où il y a du haut, des jours où il y a du bas. Et puis voilà, l'idée, c'est quand même de garder du positif et d'avancer de l'avant.
On parlera un peu plus tard de votre présent et de votre, ouais, de votre avenir, si tu veux bien. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu comment ça se passe les premiers mois, les premiers traitements. Mm-hmm. Dans quel état vous vous trouvez tous les deux, quoi.
Alors, tous les quatre, du coup, oui. parce qu'il y a Lucas et Léa. Alors, ce qu'il faut savoir sur les traitements de leucémie, c'est que vous avez 6 mois de chimiothérapie lourde. Qui dit lourde dit beaucoup d'hospitalisation, à raison d'une fois par semaine, deux fois par semaine, une hospitalisation de 4 jours, des traitements à la maison. Enfin, c'est vraiment 6 mois qui sont lourds, mais qui ont l'avantage d'être une organisation assez militaire. C'est-à-dire qu'on vous dit tel jour à telle heure, il y a ça, tel jour à telle heure, il y a ça. Il n'y a pas de place pour l'inconnu. Vous avez un planning, vous savez, voilà. Donc, c'est une période qui est à la fois dure parce que c'est une période très forte en termes de traitement. Donc vous avez la perte des cheveux, il y a énormément de cortisone, donc une tendance un peu bouffie, avec des sauts d'humeur, il passait du rire aux larmes. Alors par moment on s'est chopé des fous rires parce que on était un peu dans l'euphorie du truc, et puis par moment ça a tendance un peu à faire peur. Et puis il y a le faciès de malade en fait qui commence aussi à arriver dans cette phase là et puis une fois que ces 6 mois de traitement sont passés, on passe sur le traitement d'entretien à raison d'une hospitalisation de jour, enfin une hospitalisation par mois. Quand les médecins nous l'ont présenté, à la fin des 6 mois, on avait hâte d'être à cette période-là parce qu'on se disait on va pouvoir souffler, on va pouvoir reprendre une vie normale parce que les médecins nous disaient que ça allait mieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les traitements réduisent à zéro les défenses immunitaires des petits. Et du coup, à partir du moment où ils font de la température, ça demande une hypervigilance parce que ça peut être grave et vite très grave. Donc ils sont en ce qu'on appelle en aplasie, c'est-à-dire pas de défense immunitaire. Donc ça veut dire que la moindre bactérie qui va passer, qui aura aucun effet sur un enfant valide, normal, ça peut devenir très très grave. Et qui veut dire grave, dit température, hospitalisation, traitement, voilà. Et puis quand on est arrivé à la fin de ces traitements, de ces 6 mois, on a soufflé et en fait on a attaqué sans le savoir la période qui allait être la plus difficile, en fait, le marathon. Parce que 18 mois c'est long. Et en fait Lucas, là on n'a pas eu de bol, c'est que Lucas a fait toutes les complications possibles et inimaginables et qu'il n'avait jamais vu sur un seul et même enfant. Donc ça a été compliqué parce que du coup on avait enregistré dans notre tête que pendant les 18 mois ça allait être relax. Et en fait, non, ça a été extrêmement compliqué. Il a été beaucoup hospitalisé, il a fait beaucoup de complications, des complications plus ou moins graves. Et ça a été 18 mois terribles, parce qu'on était toujours entre la maison et l'hôpital. Moi, avec mon job, mon épouse était en congé maternité, donc il n'y avait pas cette problématique. Mais avec la problématique de quand l'hôpital nous appelle à 2h du matin en nous disant « faut l'amener vite », qu'est-ce qu'on fait de notre fille qui dort? Heureusement, on a mes parents qui habitent à côté. Appeler ses parents à 2h du matin en leur disant « faut venir vite parce qu'on emmène Lucas à l'hôpital », on a envie de les protéger aussi. Mais en même temps, il y a l'aspect logistique qui prend le dessus. Donc voilà, ces 18 mois ont été très durs. Et puis ça s'est terminé en juillet 2017. Donc depuis juillet 2017, il n'a plus de traitement du tout. Sa biologie redevient petit à petit normale. Il retourne à l'école et puis il reprend une vie d'enfant, on va dire quasiment normale, parce qu'elle ne sera jamais vraiment normale jusqu'à ce qu'il y ait la fin de son suivi en 2021.
Comment ça se passe au sein de votre couple ?
Dur. Dur parce que c'est un garçon, c'est le premier. Ma femme est d'origine méditerranéenne, donc avec une relation très, très fusionnelle avec son fils. Et plusieurs fois, je me suis senti, par exemple, sur à peu près les 4 mois d'hospitalisation, il n'a pas été hospitalisé 4 mois en continu, mais à peu près sur la durée du traitement, il a été hospitalisé 4 mois. J'ai dû dormir avec mon fils à l'hôpital que 2 fois, parce qu'il était hors de question pour mon épouse de laisser son fils à l'hôpital. Donc ça a été dur. Et puis moi je suis d'une nature assez combative, assez positive. mon épouse a un caractère qui est différent, mais c'est ce qui fait qu'on se complète. Mmh. Donc ça a été, ça n'a pas été simple. Voilà, ça n'a pas été simple. Après, ce genre d'aventure pour un couple, ça passe ou ça casse. On a vu énormément de couples se séparer avec perte et fracas. Nous, ça nous a renforcé. Et puis de toute façon, il y avait Lucas, il y avait Léa. On n'avait pas le droit de baisser les bras. Voilà, on a traversé des périodes qui n'étaient pas simples. Mais on en sort la tête haute et fier de ce qu'on a fait pour Lucas et de là où on en est aujourd'hui.
Ça te dérange si je te demande comment vous avez fait justement pour vous en sortir en tant que couple ? Parce que je pense à des couples éventuellement qui rentrent, comme tu disais, dans un cycle de maladie qui risque d'être compliqué. C'est quoi les trucs que vous avez fait ? Vous êtes parlé
Alors, la première promesse qu'on s'est faite, et ça a été pour moi tout de suite quelque chose d'extrêmement important, c'est de se promettre qu'on n'ira jamais chacun de notre côté, taper leucémie sur Google, taper diagnostic, voilà. Mmh. On s'est dit tout de suite, on se promet qu'on n'ira jamais chacun de notre côté regarder quelque chose, que si on a des questions, on en parle, qu'on en parle au médecin, mais qu'on ait le même niveau d'information et qu'on ne se mette pas chacun de notre côté à imaginer des trucs sans en parler. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on s'est promis et on l'a tenu tous les deux. Ça, c'était un élément qui était très important. Après, la chance qu'on a eue, c'est qu'on habite à 15 minutes du centre Léon Bérard. Professionnellement, mon employeur, j'ai appris la maladie le jour où je devais signer mon contrat de travail.
Wow.
Donc j'ai appelé mon employeur en lui disant c'était un projet qu'on construisait depuis très longtemps. Tout de suite, j'ai appelé mon employeur en lui disant c'est la merde, je me retire du projet. C'est une maman qui a 3 enfants. Voilà, maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille ensemble, mais à l'époque, je la connais pas plus que ça. Tout de suite, elle m'a dit Sébastien, prenez pas de décision, concentrez-vous sur votre famille. Si vous arrivez pas tout de suite, c'est pas grave, on en reparle au mois de septembre. Au mois de septembre, j'ai rappelé en lui disant que je pouvais commencer mais qu'à 50%, donc j'étais à mi-temps, puis après je suis passé à 80%. Donc d'un point de vue professionnel, tout s'est très bien passé, d'un point de vue financier aussi, on était à l'abri. Et c'est vrai que qu'est-ce qui peut, entre guillemets, foutre la merde dans un couple quand il y a en plus la maladie ? C'est des histoires financières, des histoires professionnelles, des histoires de logistique. C'est vrai qu'on a pu traverser cette maladie la plus sereine possible parce qu'on avait nos proches, financièrement on n'avait pas de besoin, professionnellement on a pu s'adapter. Donc on avait vraiment tout un écosystème bienveillant autour de nous qui a fait qu'on a pu se concentrer sur Lucas et je pense que c'est ce qui a fait aussi que notre couple a tenu en fait parce qu'on n'a pas eu à traiter de choses autres que d'être présent pour Lucas et de l'accompagner dans sa maladie.
Et toi, à titre personnel, est-ce que tu partageais tu disais tout à l'heure que tu t'étais peut-être senti exclu justement de la relation fusionnelle entre ta femme et son fils. Est-ce que tu lui en as parlé ?
Non, je pense qu'elle va l'apprendre en écoutant le podcast.
Révélation.
on a dû en parler après, le cerveau fait qu'on se met, ce que je disais tout à l'heure, on se met en pilote automatique. Et surtout, on cherche à se protéger l'un de l'autre, enfin l'un et l'autre, pardon. Donc voilà, par moment, j'avais envie de taper dans des murs et parce que j'avais vraiment ce besoin de rester avec Lucas la nuit. Mais après, voilà, je respectais aussi son. Je pense qu'elle avait plus besoin de rester avec Lucas que de moi rester avec lui. Et connaissant Lucas et sa relation avec sa maman. Voilà, de toute façon, ça s'est fait comme ça.
Oui,
et
oui,
puis,
oui.
Et puis, de toute façon, j'allais pas dire à ma femme, non, je reste là, tu rentres. Enfin, si, je l'ai fait une fois, mais parce qu'il y avait des raisons qui faisaient que, mais voilà, ça s'est fait comme ça et on n'en a pas trop parlé.
Ouais. Ok. Non, je suis pas en train de dire qu'il faut que tu aies des regrets, hein, surtout.
Non, 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 no remords, no regrets.
Donc, ensuite, tu dis qu'à la sortie de ces 18 mois, pour reprendre un peu le fil de la discussion, du cours de l'histoire, ton fiston arrête d'avoir des traitements, ouais. C'est ça ? Donc ça fait 1 an et demi, c'est ça ? 2 ans ?
Non, ça fait 1 an et demi, ouais.
Comment ça se passe depuis, en fait ?
Alors, ça se passe bien, il a une prise de sang tous les mois, qui permet de contrôler que tout va bien, et puis surtout de détecter tout de suite une rechute. Parce que ce qu'il faut savoir sur la leucémie, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas compris... ce qui se passe à l'origine, c'est il y a rien d'héréditaire, parce que la deuxième question qu'on a posée, c'est « Et notre fille, comment ça va se passer ?» Il n'y a aucun lien d'hérédité. Aujourd'hui, ils considèrent que c'est un bug génétique. C'est un peu ce que disait Greg aussi, voilà, c'est un bug génétique. Bon, un sacré bug quand même, hein, mais voilà. Par contre, ils ont compris la maladie et ses différentes formes. Et aujourd'hui, quand on est arrivé, ils nous ont dit, voilà, on ne sait pas si la maladie... On sait que le nombre de cellules atteintes est faible statistiquement par rapport aux patients qu'on voit habituellement. Par contre, on ne saura pas vous dire si la maladie a été prise en compte tôt ou s'il l'a depuis longtemps, mais que la maladie était peu invasive. Bon, dans les deux cas, de toute façon, c'est un diagnostic qui est plutôt favorable. Donc l'idée du suivi médical, c'est de pouvoir détecter une éventuelle rechute très tôt pour tout de suite réattaquer les traitements, un nouveau protocole. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un peu cette épée de Damoclès. Et puis, quand il va bien, on n'y pense pas. Et puis, quand il chope une grippe ou qu'il nous dit qu'il a mal aux jambes, tout de suite... voilà. Puis un truc qui est dingue, qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Mon meilleur ami, le parrain de ma fille, m'apprend un matin qu'il vit au Canada. Je savais que son papa était malade d'un cancer. Et un matin, on se lève avec Lucas. J'étais en train de faire mon café. Et puis, comme tout le monde, je prends mon téléphone, je check un peu les réseaux. Et puis là, je vois un message de lui. Et puis avec le décalage horaire pour qu'il m'envoie un message à cette heure-ci, c'est qu'il y avait quelque chose. Et puis il m'apprend que son papa était décédé. Et là, au moment où je lis le message, Lucas me regarde et il me dit « Papa, quand est-ce que je reprends mes traitements ?» Et là, je me suis dit « C'est pas possible. » Enfin, j'ai rien manifesté quand j'ai... Voilà. Pourquoi au moment où j'apprends le décès de quelqu'un qui a un cancer... Alors qu'il ne m'avait jamais reparlé de ses traitements, ça c'est arrivé en novembre ou en octobre de l'année dernière. Il avait arrêté ses traitements depuis le mois de juin, donc l'hôpital c'était plus loin, il ne nous en parlait plus. Pourquoi au moment où j'apprends ça, il m'en parle? Et c'était une période où il était un peu fatigué, donc tout de suite, on est reparti dans les inquiétudes. Là j'en ai parlé tout de suite à mon épouse. Du coup, il avait une prise de sang dans 3 semaines. 3 semaines après, on a fait la prise de sang tout de suite. Les médecins nous ont dit que tout allait bien et puis on était passé à autre chose. Mais c'est un peu l'ascenseur émotionnel, du coup.
Mais donc lui-même est capable de... Parce qu'il a quel âge aujourd'hui? 5
Là,
ans
Là, il a 6 ans. 6 ans. Il vient d'avoir 6 ans, ouais.
Il est capable lui-même de conscientiser le fait qu'il aura besoin d'un traitement parce que...
Je pense que c'est assez flou pour lui. Mmh. Je pense que, en fait, comme ça lui est arrivé très tôt, il a vite intégré, il connaît le nom de tous les traitements. Il a baigné pendant 2 ans, c'est énorme, c'est la moitié de sa vie dans un univers médical. Donc il l'a intégré en fait dans son quotidien. Donc du coup, après, c'est un sujet. On évite de lui en parler, en fait. Alors, il est suivi par un psychologue qui l'aide à se reconstruire parce que la maladie a des effets sur sa scolarité et sur plein de choses. Et puis, nous, ça nous fait du bien aussi d'avoir des clés d'apprentissage parce que c'est pas simple d'avoir un petit bonhomme qui a 6 ans, mais qui, en même temps, a une maturité, qui a une culture musicale quand même assez riche, qui va s'intéresser à plein de choses. Un petit gamin de 6 ans, normalement il court, il joue au foot, il se roule par terre, Lucas pas du tout. Donc c'est pas facile, et puis de se dire ok, pendant 2 ans on lui a autorisé plein de choses, c'était normal, mais maintenant c'est pas la vraie vie. Aujourd'hui on est en plein dans où est la limite, en fait.
J'allais te demander justement qu'est-ce que c'est sa vie à lui pendant ses traitements. Alors j'imagine que pendant les 6 mois c'est sans doute extrêmement dur, mais peut-être après quand c'est plus espacé. Bah, tu disais qu'il avait été beaucoup hospitalisé.
Alors je vais prendre un exemple qui est assez parlant. Est-ce que tu connais le film La vie est belle?
Oui.
Voilà. Et la vie de Lucas, c'est... on a vécu La vie est belle, attention, avec un niveau d'horreur complètement différent. Mais quand on me demande comment vous l'avez traversé, je prends toujours le même exemple parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adultes, on avait la conscience de l'horreur des choses. Hein. Dans le camp de concentration, le papa, il savait très bien l'histoire, la réalité des choses. Et notre quotidien, ça a été de pas de transformer, pas de cacher, mais de faire en sorte qu'il en tire du positif.
Tu as le droit de dire transformer, en même temps, je pense que c'est une chouette mission pour...
Transformer, mais en même temps garder quand même de la réalité, parce que quand on sait qu'il doit faire un myélogramme, c'est une ponction moelle osseuse ou une ponction lombaire, on sait qu'il va y passer, et ça sert à rien de il faut aussi qu'il soit conscient, mais en même temps, il faut le protéger. C'est un jeu d'équilibre entre qu'est-ce que je lui dis, qu'est-ce que je lui dis pas, mais en même temps, si je lui dis pas, les enfants, ils sont très instinctifs, ils le sentent quand ça va pas. Donc il vaut mieux leur dire et en parler avec des mots d'enfant plutôt que de rien dire, parce qu'ils vont sentir l'inquiétude et ça va se transformer pour eux en quelque chose de beaucoup plus difficile à appréhender.
Il allait à l'école pendant cette période-là ?
Alors pendant les 6 premiers mois, non, oui. parce que bah, il n'avait tout simplement pas le temps. Mm. Donc on l'a fait rentrer à l'école donc la maladie a commencé en juin 2016.
Il était en maternelle, c'est ça ?
Il était... Alors en fait, il devait rentrer en deuxième section de maternelle, okay. Oui, c'est ça. Du coup, comme il n'a pas été à l'école pendant les 6 premiers mois de sa deuxième section, on a voulu le mettre à l'école en début d'année 2017. Ce qui, avec du recul, a été une erreur parce que, bah, du coup, la fin de sa moyenne section, il l'a fait en pointillé. La grande section, on n'en parle même pas parce qu'on était en plein dans les périodes de traitement avec des hauts et des bas. Et avec du recul, on s'était dit qu'il faut le remettre à l'école pour qu'il revienne vite avec une vie normale et puis qu'il sorte un peu du cocon familial sur lequel il était quand même surprotégé. Avec du recul, on aurait dû le garder à la maison jusqu'au mois de juin et puis le faire rattaquer du coup une deuxième section de maternelle à la rentrée. Voilà, bon, après, ça s'est passé comme ça, et puis voilà, faut pas chercher.
Pourquoi tu dis avec le recul ? C'était plus compliqué pour lui, c'est ça ?
Avec du recul, oui, parce que Lucas est un petit garçon qui est très à l'aise sur certaines choses, qui ne sont pas forcément de son âge. Tu vas lui mettre un morceau des Beatles, il va te dire, bah, c'est Paul McCartney. Bon, j'écoute beaucoup les Beatles à la maison.
Oui, c'est parce que tu l'as.
Voilà, j'ai eu la chance de grandir dans une famille de musiciens, j'ai été éduqué très tôt à la musique. J'ai beaucoup utilisé la musique comme un lien avec lui et comme un moyen de le sortir de sa chambre d'hôpital. Donc, mais à côté de ça, tu vois, prendre un stylo et écrire, ça le gonfle. Donc il est en retard, en décalage plutôt, avec le rythme de l'école, mais en même temps, il a une maturité qui est liée à sa vie, à ses traitements, parce que la cortisone, c'est les corticoïdes, ça booste les connexions au niveau du cerveau. Donc c'est un décalage, et aujourd'hui, la problématique qu'on a avec Lucas, c'est que l'école lui demande des choses, soit qu'il n'a pas envie, soit qu'il aujourd'hui n'est pas capable de faire. Et c'est de veiller à ce qu'il ne se sente pas du coup inférieur aux autres. Voilà, aujourd'hui, il adore l'école. C'est de protéger ça et que ça ne se transforme pas en phobie. Voilà, donc ce n'est pas facile. Peut-être qu'en l'ayant mis à l'école plus tard, en le laissant peut-être un peu plus digérer, les choses auraient changé. Mais bon, après, ça, de toute façon,
l'histoire.
C'est fait.
Il est en quelle classe là maintenant ?
Là, il est en CP.
D'accord.
Ouais. Il est en CP.
Lire et tout, ça lui...
Et bah, c'est compliqué.
C'est compliqué, ouais.
C'est compliqué parce que bah, il a des quelques soucis en termes de motricité fine.
Okay.
Donc il est suivi, il est rééduqué. Pareil pour les apprentissages. Et puis je pense que Lucas, mon épouse et moi, on est quand même de nature assez anxieux. C'est quelque chose, même avant la maladie, on sentait que c'était un petit garçon... qui avait hérité de ce côté-là. Mmh. Et je pense qu'il a sûrement aussi un manque de confiance en lui et puis le rythme de l'école qui voilà, vous sentez qu'il y a un wagon, en fait, qu'il faut prendre le train en marche et puis que si vous prenez pas le train en marche, et ben ça sera compliqué. Donc on a une réunion là avec l'équipe pédagogique dans 15 jours, 3 semaines pour discuter de tout ça et puis surtout de savoir voilà, qu'est-ce qui est bon pour Lucas. Et il va pas passer le bac à la fin de l'année, hein, ça c'est clair. Moi j'ai redoublé deux classes et j'ai eu mon bac au rattrapage, c'est pas pour autant que je m'en suis pas sorti, donc ben j'ai pas de stress. Mais voilà, l'idée c'est de veiller à ce qu'il soit bien dans ses baskets et que l'école reste un plaisir. Voilà, on se dit qu'il va peut-être redoubler son CP et puis de passer dans une classe CPCE1 double niveau pour essayer quand même de prendre un peu du niveau d'après. Il y a aussi les copains, donc il faut gérer aussi le fait que de la séparation, parce que forcément, on a la chance d'être dans une petite école de quartier, les enfants se suivent de classe en classe. Si ses copains changent de classe et pas lui, voilà, il ne faut pas que ce soit perçu comme un échec. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut... on va dire que ce n'est pas des choses médicales, mais c'est des choses qui sont directement générées par la maladie.
Et la petite sœur dans tout ça, comment elle va ?
Ah, elle, c'est le rayon de soleil.
Ouais.
C'est le rayon de soleil. Après, quand c'est arrivé, Léa avait 6 mois. Et je pense qu'à 6 mois, un enfant, tant qu'il y a quelqu'un de bienveillant pour s'occuper d'elle, je ne suis pas certain qu'à l'instant T, ils perçoivent ce qui se passe. Et s'ils le perçoivent, ils n'ont pas la capacité à le manifester. Léa, ça se manifeste aujourd'hui. Dès que sa maman n'est pas là, c'est elle est où maman. Elle a ce côté, je pense, de le contre-coup en fait de la séparation, parce que en fait c'était très brutal. Hein. Le 21 juin, on part au centre Lombérard et mon épouse est revenue ponctuellement à la maison. Mais ça a été fait, ça a été brusque, brutal, quoi. Donc là, elle va super bien, elle est en pleine forme. Elle n'arrête pas d'embêter son grand frère n'arrête pas de l'embêter. Enfin, des choses normales entre un frère et une sœur. Mais on sent petit à petit qu'on avait peut-être un peu sous-estimé l'impact de la maladie sur elle.
Ok.
Voilà.
Tu disais que ton fiston était suivi par un psy.
Oui.
Et qu'il y avait des répercussions que vous aviez pas, enfin psychologiques en tout cas, que vous aviez pas forcément anticipées, comme quoi par exemple.
Alors un enfant à cet âge-là, il y a une question de caractère. Et puis un enfant à cet âge-là va pas forcément exprimer tout ce qu'il ressent. Et puis vu l'environnement dans lequel il était, on l'essayait constamment de l'en sortir. Et peut-être qu'on l'a pas poussé non plus suffisamment à s'exprimer sur la maladie, sans que ce soit un sujet tabou. Mais il nous en parlait pas. Nous, par exemple, il a fallu qu'on se batte à l'hôpital pour qu'un médecin lui explique sa maladie, que ce soit quelqu'un d'autre. Et ça, on a senti qu'on leur demandait la lune, quoi. Alors que nous, on avait la dose d'émotion que forcément un médecin n'a pas, puisqu'il est extérieur. Je pense que ce qui a été compliqué pour nous, je pense qu'on n'a pas manqué d'écoute, mais d'échanger avec lui sur la maladie, sur ce qu'il ressentait. Parce que quand il nous disait que ça allait pas, forcément, on lui faisait des câlins. Voilà. Mais il y a peut-être des moments où en fait, on avait l'impression qu'en fait, il allait bien et que dans sa tête, en fait, ça allait pas. Et ça, en n'étant pas dans sa tête, c'est difficile. C'est compliqué.
Tu penses qu'il a voulu vous protéger aussi quelque part?
Carrément.
Ouais.
Carrément. Un petit garçon. Un jour, il était dans la belle famille, sans rentrer dans le détail, il a fait un... Donc ils sont sur Pierre-Latte, dans la Drôme. Moi, j'étais sur Lyon, je devais les rejoindre. Mon épouse m'appelle en me disant « Les pompiers sont là, Lucas a perdu connaissance, on ne sait pas ce qui se passe. » Donc t'imagines, moi, à 150 km, wow. J'étais en rendez-vous avec un client. Je vois mon téléphone qui sonne 10 fois. Non, je me dis « Il y a un truc bizarre, je m'excuse auprès de mon client, je vais prendre l'appel, mon épouse en larmes. » Enfin bref, j'avais l'impression de revivre ce qui se passait. Rapatrié en ambulance sur Lyon. Et quand je suis arrivé, la première chose qu'il m'a dit, c'est « T'inquiète pas, papa, ça va. » Et là, je me suis pris une claque.
Oui.
Je me suis dit « Putain, attends, t'as 33 ans, 32 ans, c'est toi le papa, et c'est ton gamin qui a 4 ans qui te dit « T'inquiète pas, papa, t'inquiète pas, ça va. »
C'est très peu ton rôle, hein, Lucas.
ouais. Enfin, j'ai rarement été pris à dépourvu par lui, mais voilà, je pense que les enfants ont cette résilience que nous, en tant qu'adultes, on a tendance à perdre. Et ce que je retire, moi, de cette expérience, c'est que la résilience, c'est quelque chose de fondamental. Il ne faut jamais le perdre de vue. Et alors, c'est vrai qu'un enfant, il n'a pas de responsabilité professionnelle, il n'a pas de crédit, il n'a pas de... Donc, il a peut-être un environnement qui le facilite à prendre le positif que nous, on perd en tant qu'adulte. Mais l'avantage que je tire à être passé par là, parce que pour moi, d'être passé par là, c'est une force, c'est voilà, de pas perdre de vue qu'il faut tirer du positif, que oui, ça peut être la merde, mais voilà. Chez moi, on dit demain, il fera jour.
Vous avez un suivi psychologique, tous les deux ?
On a eu un suivi psychologique au début. Et puis c'est vrai que au fil du temps, on en a moins ressenti le besoin. La maladie a quand même transformé pas mal de choses dans notre couple. On a eu besoin au départ, pas tant pour nous en tant que couple, mais pour nous aider à appréhender Lucas et à se dire qu'est-ce qu'on a autorisé à Lucas pendant sa maladie. Et comment on doit petit à petit rectifier le tir, parce que c'était pas non plus lui rendre service que de les laisser dans le confort et entre guillemets le laxisme qu'on acceptait avec lui compte tenu de ce qu'il traversait.
Oui, tu disais qu'il y avait pas mal de choses qui ont changé, que la maladie a changé dans votre couple, comme quoi par exemple?
Notre rapport à
l'autre. Vous connaissez depuis longtemps avec ta
femme. Avec on va l'appeler Mélanie. Hein, je vais arrêter.
C'est son prénom.
Elle
a un vrai prénom. Bonjour Mélanie.
On s'est rencontrés en 2007. On s'est marié en 2011, donc ça a été assez vite, mais c'était une évidence. Et puis 2012, 2015, voilà, nos enfants. Ça a renforcé en gros notre couple. Voilà, j'ai vu que mon épouse était, j'avais pas de doute, mais était une vraie guerrière et elle m'a donné énormément de courage dans cette épreuve, énormément. Ce qui est déstabilisant parce que je suis pas du tout macho, mais
c'est pas du tout ça.
Non, c'est pas ça, mais voilà, elle m'a donné énormément de courage et moi j'avais la chance dans la maladie d'avoir mon job à côté. Quand j'allais au boulot, bon, je travaille sur la même ligne de métro que le centre Léon-Bérard, donc à 10 minutes. Donc quand Lucas allait pas bien, que j'étais au boulot, je savais que je pouvais y aller, le voir. Voilà. Mon épouse, Mélanie, c'était son boulot, le monde du travail. Voilà. Elle me racontait, pendant sa grossesse, elle me racontait un jour qu'elle avait vu un landau arriver, que dans le landau, c'était un bébé mort. Elle était enceinte, elle m'avait raconté ça comme ça. Mélanie, elle fait 1m50, 40 kilos, et d'une force et d'un courage. Voilà,
tu n'imaginais pas être capable de faire preuve de tant de force.
Non. C'est pas que je la sous-estimais, c'est pas ça. Mais voilà, j'ai.
C'est pas forcément des qualités que tu pensais qu'elle avait.
Voilà, ça m'a ouvert les yeux sur un côté de sa personnalité que j'avais pas vu. Ou à côté de sa personnalité qui a évolué aussi, parce que je pense que la maladie a des effets sur Lucas et aussi sur nous en tant que parents. Je vois plus la vie comme avant aujourd'hui.
Comment tu la vois désormais? Qu'est-ce que ça a changé chez toi concrètement, la maladie de cet enfant?
Pour moi, alors c'est facile à dire pour moi, parce que Lucas est sorti d'affaires, qui va bien. Pour moi, je considère que c'est une chance d'être passé par là. Parce que ça m'a, d'une part, remis un peu sur le droit chemin d'un point de vue professionnel. Avant, j'avais peut-être un côté un peu carriériste. Voilà, je pensais au boulot. Et puis, si je rentrais un peu tard, c'était pas grave. Voilà, je pensais beaucoup au boulot. Alors que j'ai pas du tout grandi dans cet univers-là, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, la maladie m'a permis de voir qu'il y a des choses peut-être aussi plus importantes. À savoir prioriser, voilà, entre un rendez-vous un vendredi soir et une partie de cache-cache. J'hésite pas longtemps. Alors après, si le rendez-vous il est très, enfin voilà, je sais aussi jauger les priorités. Mmh. Mais tu vois, avant la maladie, j'aurais eu tendance à dire bah c'est pas grave, je vais rentrer plus tard et puis on verra demain. Ouais, sauf qu'on verra demain ou pas. Et ça, aujourd'hui, ça nous est arrivé jeune parce qu'aujourd'hui j'ai 33 ans. Je considère que d'avoir été papa jeune et d'avoir eu la maladie tôt, c'est que du plus parce que aujourd'hui on a une autoroute de bonheur devant nous. C'est un peu cliché, mais on a une autoroute de bonheur devant nous et on a pu être mis sur le droit chemin très tôt. Et aujourd'hui, voilà, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, et c'est pour ça que pour moi c'est une chance. Puis c'est une chance aussi parce que ça fait un sacré tri dans notre entourage.
Comment ça ?
On a perdu le cercle d'amis qu'on considérait comme le plus proche. Dans l'eau, il y avait mes deux témoins de mariage et le parrain de Lucas. L'inconvénient d'avoir des amis qu'on connaît depuis très jeune, c'est que la phase d'adolescence, jeune adulte, c'est une phase où on évolue tous beaucoup. Et c'est peut-être aussi une phase où on s'éloigne. Et bien souvent, on dit que les amis qu'on garde dans la vie, c'est les amis qu'on a rencontrés plutôt sur le tard. Je pense qu'il y a une part de vérité.
Ces amis-là ont eu peur quelque part de la maladie, c'est
ils
ça
ont, ils... ils ont disparu de la circulation. Je suis quand même quelqu'un d'assez rancunier. Et quand je prends une décision, j'aime bien m'assurer que la décision que je prends est la bonne. J'ai tenté de leur en parler pour comprendre. En fait, le point de départ, il y en a deux, c'est que pendant l'été 2016, donc la période la plus dure, ils sont partis en vacances ensemble, ils se prenaient en photo sur Facebook. Voilà. Alors, pour moi, c'est pas parce que Lucas était malade qu'il devait s'arrêter de vivre, c'était pas du tout le sujet. Mais moi, en me mettant à leur place, je l'aurais pas fait. Parce que je me serais dit, peut-être qu'il va le voir, et peut-être que ça va le blesser, et voilà, de s'afficher comme ça. Bref, c'était un point. Et puis le deuxième point qui a été pour moi le point de non-retour, c'est que le premier été, comme Lucas ne pouvait pas partir, sortir de la maison, on avait demandé à des gens de nous envoyer une carte postale, enfin d'envoyer une carte postale à Lucas. Chaque jour, on recevait 5-6 cartes postales et ça nous permettait de lui raconter des histoires et puis de le faire un peu... voilà, il y avait cette sorte de comme on dit, d'habitude, d'aller voir le courrier. Voilà. Et puis, on accrochait les cartes postales sur un mur. Et puis, au mois de septembre 2016, on s'est mis face au mur. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des cartes postales d'à peu près tout le monde, même des gens qu'on ne connaissait pas, mais qui avaient entendu parler de notre histoire. Sauf des gens qu'on considérait comme étant les plus proches. Mmh. Et là, on s'est dit, OK, ils peuvent avoir peur. Dans l'eau, il y avait un couple avec un enfant. Donc voilà, le fait de se projeter, ça pouvait être pas facile. Mais une carte postale, quoi. Une carte postale, tu l'écris, tu la mets dans une enveloppe, tu l'envoies. Et même si t'es pas à l'aise avec le fait de voir un enfant malade, le fait d'échanger avec... je pense qu'on peut difficilement faire plus neutre qu'une carte postale. Et vraiment, le point de non-retour, c'est que la veille de la rentrée scolaire 2016, une personne du groupe a envoyé un SMS à Mélanie en lui disant « Bonne rentrée à Lucas voilà. !» Et là, on s'est dit « Ok, en fait...
» Ils vivent dans leur monde.
Voilà, ils sont dans leur monde. Après, il faut savoir que dès le début de la maladie, on avait mis en place un blog avec un accès restreint parce que on voulait que tout le monde ait le même niveau d'information, qu'il n'y en ait pas un qui sache un truc. Voilà, parce que... Et puis, c'était aussi un moyen de nous protéger. Et c'était un moyen de se dire, voilà, quelqu'un qui a envie de savoir ce qui se passe, mais qui ne va pas forcément oser nous demander, bah, il peut aller à tel endroit, voir ce qui se passe. Nous, ça nous évitait de répéter aussi 40 fois la même chose, parce que bah, quand un résultat n'est pas bon, dire à 3, 4 personnes, bah, les résultats ne sont pas bons, en gros, c'est dur. Et en fait, voilà, on s'est dit, on leur a donné les moyens de s'intéresser à la maladie de Lucas. Ils ne l'ont pas fait, ils nous envoient un message. Enfin, je me rappellerai toujours la colère que j'ai ressentie. Je ne suis pas quelqu'un de colérique, mais quand Mélanie m'a fait lire le message, j'ai envie de tout casser, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc voilà, on leur a envoyé un message en leur disant, bon ben... Voilà, on se dit au revoir parce que pour nous... voilà. Et la chance, pour moi, pourquoi je reviens tout à l'heure à ce qu'on disait sur la chance, pour moi, la chance, c'est que on s'est aperçu que de tout ça, alors qu'on n'avait pas besoin d'eux, on avait notre famille, on avait notre cocon, notre garde rapprochée. Je pense que de compter sur personne, sur quelqu'un et de se rendre compte qu'en fait, elle n'est pas là, je pense qu'on tombe de haut. Là, on n'a pas eu besoin d'eux et on s'en est aperçu dans un moment, en fait, où on n'avait pas besoin d'eux. Et puis, la contrepartie, c'est qu'on a découvert des gens dans notre entourage, redécouvert des gens dans notre entourage sur lesquels on ne pensait pas forcément qu'ils seraient là et qui se sont révélés d'une présence extraordinaire. Et ça, aujourd'hui, du coup, pour moi, c'est une chance parce que je sais dans ma vie, j'ai mis de côté les gens, entre guillemets, les parasites et les gens qui méritent que je leur accorde de l'attention parce que, bah, d'une part, ils pourront évidemment compter sur moi, mais surtout, je pourrais compter sur eux et je pense que c'est le fondement de l'amitié, quoi.
T'as monté une association aussi, j'ai vu sur Instagram.
Oui, j'ai monté une association qui s'appelle Le Cœur Plus Gros que le Ventre. L'idée, c'est toujours ça, c'est en fait de faire en sorte que... On a tellement pu traverser cette maladie dans un environnement favorable que j'avais le besoin de faire quelque chose pour les autres, parce que je partais du principe que si moi, je le faisais pas, j'avais rien compris, quoi. Donc l'idée de l'association, pendant les traitements, j'ai fait beaucoup pour la recherche contre le cancer. C'est très important. Si la recherche n'était pas où elle en est aujourd'hui, Lucas ne serait pas guéri. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez abstrait. Et j'ai eu envie d'utiliser notre expérience de parents pour proposer des projets à l'hôpital et mener à bien des projets qui ont un effet immédiat sur les petits, en sachant que bah, pour financer ça, je suis passionné de pâtisserie et de macarons. Donc du coup, l'idée, c'était de se dire, je fais des macarons, on vend ces macarons, et avec les recettes, on finance des projets qu'on a proposés.
Donc tu fais toi-même tes macarons?
Ouais, okay. Ouais, je fais moi-même mes macarons. Alors l'année dernière, j'ai été aidé, parce que l'année dernière, on a fait à peu près 6 500 macarons. Donc voilà, tout seul...
Ça fait beaucoup de macarons.
Beaucoup de macarons, ça fait beaucoup de temps aussi. L'année dernière, on a financé l'achat de casques de réalité virtuelle qui sont mis à disposition des petits dans des examens un peu impressionnants parce qu'ils ont des très bons retours sur la capacité du cerveau à s'extraire du présent.
De la réalité, ouais.
Voilà, de la réalité. Ça leur permet d'éviter de mettre des traitements qui assomment les enfants. Et puis, vu les doses de chimie qu'ils reçoivent, s'ils peuvent en mettre un peu moins, c'est toujours ça de prix. Et cette année, en fait, on finance un projet par an. Et cette année, donc on vient de terminer la vente, on finance un dispositif. C'est un vidéoprojecteur en fait qui projette des jeux vidéo. Et en fait, le petit joue en se déplaçant sur l'image.
Voilà. D'accord.
Et c'est un projet que j'ai proposé à l'hôpital parce qu'il faut que le projet que finance l'association ait un lien direct avec notre histoire et avec le constat qu'on a fait. Et le constat qu'on a fait pendant la maladie par rapport à Lucas, c'est que les enfants sous chimio sont fatigués, les muscles fondent, ils n'ont pas envie de faire d'exercice. Donc l'idée, c'est de leur dire plutôt que de faire aller des longueurs dans le couloir, c'est bah, va jouer. En fait, l'enfant va jouer, mais sans s'en rendre compte, il va faire d'exercice. Voilà. Et c'est aussi un besoin que moi j'avais de... Voilà, de... Ça fait partie du deuil de la maladie. Et puis de me dire que voilà, c'est pas que je me sentais redevable, mais c'est que voilà, j'avais ce besoin de faire quelque chose en sachant que la rémission définitive étant annoncée en 2021, j'ai pris la décision de fermer l'association en 2021 okay. et de passer à autre chose. On aura fait 5 projets, ça aurait été bien. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi prendre du recul et ça fait partie de la reconstruction.
On mettra le lien dans les notes du podcast si jamais vous voulez aller voir. Ça vous permettra de pouvoir voir un peu ce que fait ton asso. Il y a une question que je pose à tous mes invités. Mm-hmm. Si dans 10 ans, ton fils et ta fille écoutent ce podcast,
ouais.
qu'est-ce que tu as envie de leur dire là maintenant ?
Je vous aime. C'est bête à dire, mais ça fait flambeux. Et surtout, enfin... Je suis très très fier de mon fiston.
T'as l'air en tout cas.
Ouais. Ouais, mais c'est une leçon de vie. C'est à la fois quelque chose de terrible, mais à la fois quelque chose de très beau. Voilà.
Et comment il va lui aujourd'hui ?
Il va bien. Il va bien. Bon, après, ouais, grippe, angine. C'est toutes les joyeusetés d'un enfant de 6 ans, mais il va bien. Et puis, quand je dis que c'est une leçon de vie, c'est... voilà, en tant qu'adulte, on a toujours tendance à se plaindre. « Ah, oh, il fait pas beau. Ah, oh, j'ai mal là. Bah, » Ouais, ok, mais attends, la vie, elle est belle, quoi. Enfin, ça me fait toujours rigoler de... J'aime bien écouter les gens, voir de quoi ils parlent. D'autant plus quand ils ne sont pas au courant de notre histoire. Et je me dis, toi, tu ne sais pas... Enfin, tu sais pas... Et heureusement pour lui, hein, mais tu ne sais pas qu'en fait, la vie, elle est belle. Et nous, avec la maladie, et c'est pour ça encore, pour moi, je considère ça comme une chance d'être passé par là. Voilà, je sais que la vie est belle, j'en suis convaincu. Et voilà, on a plein de choses à vivre avec nos enfants et de belles choses.
Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé dire au micro que tu n'as pas dit ?
Non, je pense qu'on a fait le tour. Après, voilà, il y a eu un peu d'émotion. Je m'étais préparé pourtant, mais
c'est pas grave. Tu sais d'avoir des émotions. Ouais, je sais sûr. Que c'est compliqué quand on est des mecs d'avoir des émotions, mais c'est pas grave.
Ouais, j'ai pas grandi dans un univers macho où l'homme. Voilà, c'est pas ma manière de voir les choses, mais voilà, on touche à l'intime, à la chair de notre chair, quoi. C'est quelque chose. Mais avec le temps, ça va mieux.
Tu veux dire? Tu veux dire d'arriver à gérer tes émotions?
Oui, c'est ça oui, oui, avec le temps, on arrive à digérer les choses. Et puis le cerveau, c'est un truc bête, mais je passe 2 fois par jour devant l'hôpital où a été traité Lucas pour le boulot. Et je vois plus l'hôpital, je ressens plus la même chose quand je passe. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit, c'est que pour arriver dans la partie pédiatrique, il faut traverser un couloir avec des odeurs médicales. Et jusqu'à il y a 3-4 mois, à chaque fois que je passais par ce couloir, j'avais la tête qui tournait, enfin j'étais vraiment pris de quelque chose, par un malaise, mais et ben, ça me le fait plus depuis quelques temps, donc je me dis que dans mon inconscient, le cerveau doit sûrement aussi travailler de son côté en arrière-tâche, pour reprendre un terme informatique, et voilà, ça fait partie de la reconstruction, et je pense que plus le temps passera, plus les choses s'amélioreront de ce côté-là.
Merci beaucoup, Sébastien.
Merci à toi.
C'était très cool. Un grand merci.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
C'est terminé pour cet épisode. Un grand, grand merci d'avoir écouté. Je vous invite à venir réagir soit sur l'Instagram de Rocky, c'est sur RockyMag, RockyMag, soit sur mon Instagram perso, moi je suis sur FabFlorent, FabFlorent, soit sur YouTube, sous la vidéo de cet épisode. Vous trouverez le lien dans les notes du podcast. J'adore lire vos commentaires. Je vous rappelle aussi que si le concept vous plaît, vous pouvez en parler autour de vous, partager sur les réseaux sociaux. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Si vous voulez passer à mon micro, que vous avez une histoire ou une situation qui fait de vous un daron un peu particulier, vous pouvez écrire un mail à histoirededaron@rockymac.com. Histoire de daron, histoire avec un S, daron avec un S. Je vous mets l'adresse directement dans les notes du podcast. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de Daron sort chaque premier et troisième lundi de chaque mois. Rendez-vous donc très bientôt pour le prochain. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.